C'est moi, maître.
Et où vous croyez-vous?
À l'Opéra, maître.
L'Opéra de Paris, toute une histoire. Cinquième épisode, le ballet blanc. À qui pourrait-on la comparer? À un elfe, un spectre, une créature mi-nymphe, mi-vampire, ou pire encore, au fantôme d'une jeune fiancée morte avant de s'être mariée, une Vili. Née de tous les fantasmes masculins, cette créature est toute de blanc vêtue, du chausson aux perles de son chignon. Elle fait frémir, rêver, blêmir. Elle fait se côtoyer l'amour et la mort. Elle inspire les poètes, elle envoûte et laisse bouche bée tous ceux qui la voient. Qu'elle s'appelle Gisèle ou la Sylphide, la Bayadère ou la Péri, ce qui est sûr, c'est qu'elle est l'héroïne incontestée de la scène de l'Opéra de Paris durant la première moitié du XIXe siècle. En ce début de siècle, la vogue du blanc, du vêtement souple à l'antique, de la robe style empire, fait rage dans les rues de Paris. Le retour des Bourbons et le rétablissement de la royauté accentuent le phénomène. Lorsque Louis XVIII, revenu d'exil, entre à Paris en 1814, voici, vêtus de probité candide et de lin blanc, des cohortes de jeunes femmes qui lui offrent des bouquets de fleurs de lys et lâchent des colombes dans les rues de Paris. Jamais elles n'ont été mieux mises et plus blanchement parées, raconte un témoin. Elles sont toutes couvertes de ces châles transparents qui voltigent sur les épaules et sur leurs seins découverts, de ces nuages de gaz qui voilent une moitié du visage pour augmenter la curiosité, de ces robes qui ne les empêchent pas d'être nues. Dans cet attrait de sylphe, elles courent le matin, à midi, le soir. On ne voit qu'ombre blanche dans les rues. Les étoffes souples, voluptueuses et légères, comme les soieries, les gazes, les mousselines, révèlent et dessinent les corps. À l'Académie royale de musique, rue Lepelletier, où la compagnie a élu domicile en 1821, cette mode va être reprise. Et puis, l'effet que produit le nouvel éclairage au gaz, qui apparaît en 1822, magnifie si bien le blanc sur le corps des ballerines qu'un nouveau genre à part entière se crée, le ballet blanc. Le ballet blanc, son fameux tutu et ses non moins célèbres pointes, ne sont pas arrivés comme ça, du jour au lendemain, à l'opéra. Il y a l'effet de mode, oui, le mimétisme avec la rue aussi, mais surtout, ce mouvement plus général s'inscrit dans le romantisme naissant. L'empire de la raison, prôné par le classicisme, a cédé sa place à l'émotion, au tourment de la passion. Les héros romantiques ne descendent plus du Parnasse ou de l'Olympe. Médée, Jason, Vulcain, Agamemnon ou les Horaces s'effacent devant la jolie fille de Gand, la Gypsy, Katharina, Satanella, la fille du Danube. L'opéra est livré aux gnomes, aux ondins, aux salamandres, aux elfes, aux nyx, aux péris et à tout ce monde étrange et mystérieux qui se prête si merveilleusement aux fantaisies du maître de ballet, écrit Théophile Gautier. Mais surtout, le ballet clé, le ballet charnière, le symbole du ballet blanc, ce sera la Sylphide. La sylphide voit le jour le 12 mars 1832 à la salle Le Pelletier. Inspirée d'un conte de Charles Nodier sur un livret du ténor Adolphe Noury, la musique est d'un certain Jean Schneitzhofer. On y découvre dans le rôle-titre une jeune ballerine inconnue qui semble affranchie de la gravité, une certaine Marie Taglioni. Le docteur Louis-Désiré Véron, directeur de l'Académie royale de musique, raconte dans ses mémoires qu'il y avait du fantastique dans ce ballet. La veille de la première représentation, le 12 mars 1832, je ne dormis point de toute la nuit. Dans les vols aériens, tous les premiers sujets étaient remplacés par des figurantes, et bien que j'eusse visité moi-même tous les porte-mousquetons, les anneaux et les corsets à l'aide desquels les sylphides étaient suspendus à de nombreux fils de fer, bien que j'eusse assisté à toutes les répétitions préliminaires faites avec des poids bien plus pesants que nos jeunes danseuses, je tremblais que quelque accident n'exposât à des dangers les 12 ou 15 figurantes qui volaient dans les airs. Grâce à cette surveillance, pendant toute mon administration, il ne s'est pas produit le moindre événement fâcheux dans les représentations de cet ouvrage. La sylphide eut le plus grand succès, et c'est à dater de ce ballet que la réputation de Mademoiselle Taglioni devint européenne. Avez-vous pris place au Palais Garnier pour assister à la sylphide remontée en 1972 par le chorégraphe Pierre Lacotte, d'après celle de Philippe Taglioni? Pour vous en faire une idée, cette sylphide d'un autre âge est toujours au répertoire de l'Opéra de Paris en 2019. Le premier acte vous a amusé, diverti, très réaliste et couleur locale. La scène représente la salle principale d'une chaumière en Écosse, avec cheminée, rampe, baie vitrée, le tout dans des décors carton-pâte un peu kitsch. Au beau milieu, le héros, James, costume écossais et grande chaussette rouge. Son drame, être aimé d'une créature fantomatique, une sylphide que lui seul peut voir et qui, le jour de ses fiançailles, lui a volé l'alliance promise à sa future. Ce premier acte sympathique vous a fait sourire, mais la surprise vient après l'entracte, quand le rideau se lève sur la forêt des sortilèges. Une forêt en trompe-l'œil, celle des brumes d'Écosse, tient lieu de décor, et une multitude de sylphides, toutes vêtues d'un long tutu blanc, envahit le plateau. Certaines d'entre elles sont suspendues dans les cintres à 10 mètres du sol par des filins invisibles et traversent la scène de jardin à cour comme si elles volaient. On est en plein surnaturel. L'idée de suspendre ces ballerines et de les faire voler littéralement dans les airs a été chorégraphiée par Philippe Taglioni. Mais si cela a été un tour de force technique qui a donné bien du fil à retordre aux machinistes de l'époque et des sueurs froides au directeur de l'établissement, l'effet produit fut merveilleux et le reste encore 200 ans plus tard. Marie Taglioni est née à Stockholm en 1804. Alors que son père Philippe parcourt l'Europe pour son travail, sa famille s'installe à Paris. La danse est en effet dans les gènes familiaux. Père, mère, frère, oncle, grand-père, tous ont été danseurs et chorégraphes. Naturellement, Marie doit apprendre la danse. Mais ses débuts sont plutôt timides, maladroits. Elle avoue elle-même qu'elle est assez paresseuse, trouvant des subterfuges pour rater les cours et ne pas faire sa barre quotidiennement. Il se dit même que ses bras trop longs et son dos voûté la handicapent. Dès son retour à Paris, son père reprend en main l'éducation de sa fille. Fini le laisser-aller. Et pour contourner ses problèmes de colonne vertébrale, il invente pour elle une technique bien particulière de port de bras, de posture de buste, qui deviendront caractéristiques du ballet romantique. Sans oublier l'emploi du chausson de satin, remplaçant le cothurne grec, et de la pointe rembourrée. Montée sur une telle pointe, la ballerine réduit le contact avec le sol, ses lignes sont affûtées, les équilibres et les pirouettes donnent plus d'élan à l'arabesque. Si Marie n'est pas la première à utiliser la pointe, qu'on pratique depuis 30 ans, elle en acquiert, grâce au travail acharné que lui impose son père, une si grande maîtrise que son style en sublime l'effet d'apesanteur. Son père, en fin stratège, fait de sa chorégraphie pour la sylphide un écrin pour sa fille. Marie Taglioni sera la première ballerine à danser l'intégralité d'un ballet sur ses pointes. Et ça marche à merveille. Elle donnait l'illusion d'une suspension aérienne, dit un critique, courant sur les fleurs sans les courber. Marie Taglioni n'est pas une danseuse, c'est la danse elle-même. Elle a des ronds de jambes et des ondulations de bras qui valent de longs poèmes, écrit Théophile Gautier. La légende de la Taglioni est née sans jamais se démentir. Sur sa tombe, au Père Lachaise, on peut encore lire aujourd'hui cette épitaphe. « Ô terre, ne pèse pas trop sur elle, elle a si peu pesé sur toi. »
Et, deux, et... Et avec expression, et deux, et plié, accent,
et deux, reviennent trois, et quatre, et cinq, reviennent six, et sept, avec le bras, huit, on courbe en avant, un.
La sylphide de l'Académie royale de musique a donné le ton. Avec la révolution des pointes en satin rembourré, va de pair l'apparition de ce qu'on nommera bientôt le tutu. Mais qu'on appelle encore jupe, jupon, juponnage, en gaze, tulle, tarlatane, coutil, mousseline, percale, mais toujours blanc. Car il faut apparaître immatériel, éthéré, flotter gracilement, en étant sans cesse plus mince. Certaines danseuses suivent des régimes acharnés à base de vinaigre et de citron. toute une génération de poètes et d'écrivains s'enflamme pour cette esthétique du flou, cette vaporisation de la forme. Leurs robes étaient plus blanches qu'aucune étoffe qu'on n'eût jamais vue. Leurs couronnes de fleurs semblaient lumineuses. Leurs visages, surtout, étaient d'une effrayante pâleur, note Alphonse Karr. Les romantiques idéalisent la femme dans des visions spectrales morbides. Où sont nos amoureuses ? Elles sont au tombeau, écrit Nerval. Et Victor Hugo. Hélas, que j'en ai vu mourir de jeunes filles. Une surtout, un ange, une jeune espagnole, blanche main, seins gonflés de soupirs innocents, un œil noir où luisaient des regards de créole. Que j'en ai vu mourir. L'une était rose et blanche, l'autre semblait ouïr de célestes accords. Une, pâle, égarée, en proie au noir délire, disait tout bas un nom dont nul ne se souvient. Une s'évanouit comme un chant sur la lyre, une autre, en expirant, avait le doux sourire d'un jeune ange qui s'en revient. Toute fragile fleur, sitôt morte que née. Le ballet blanc triomphe aussi dans les grands opéras de Rossini, Aubert ou Verdi. Un an avant la Sylphide, soit en 1831, Meyerbeer, Giacomo Meyerbeer, avec son grand opéra Robert le Diable, écrit sur un livret de Scribe, a déjà donné ses gages au ballet blanc. Et on y retrouve déjà tout ce qui fera le sel de la Sylphide et bientôt de Gisèle. Dans ce Robert le Diable, Marie Taglioni incarne la mère abbesse avec un ballet des nonnes qui fait frémir toute l'Europe. Un véritable sabbat de religieuses que la censure épargne mais qui choque quelques esprits puritains. Écoutez encore Théophile Gautier. Les couvercles des tombeaux s'entrouvrent, des ombres se soulèvent et se dessinent vaguement dans l'ombre. On entend de légers frôlements et comme des palpitations d'ailes de phalènes. Un rayon de lumière livide, produit par un jet électrique, darde sa clarté à travers les arceaux, ébauchant dans la pénombre bleuâtre des formes féminines qui, sous la blancheur du linceul, se meuvent avec une volupté morte. Marie Taglioni, qu'elle soit sylphide ou mère abbesse, impose une mode qui fait rage. Le phénomène dépasse les limites de la vie artistique pour gagner toute la société. Coiffures, poupées, bonbons, biscuits, journaux prennent le nom de sylphide. Des objets décoratifs, des jeux prennent le nom de Marie Taglioni, la virtuose et la grâce incarnée. On taglionise, comme on dit. Thank you. On taglionise, oui, mais bientôt, on vend aussi de l'elslérine, une étoffe transparente qui porte le nom de Fanny Elsler, autre ballerine qu'on oppose bientôt à Marie. Dans ses fameux ballets blancs, Fanny Elsler excelle dans les danses nationales et les danses de caractère. Le tube de Fanny Elsler, le pas de Cachucha, un solo andalou avec Castagnette au deuxième acte du Diable boiteux. Théophile Gautier, écoutez-le encore. Comme elle se tord, comme elle se plie, quel feu, quelle volupté, quelle ardeur. Ses bras pâmés s'agitent autour de la tête qui penche, son corps se courbe en arrière, ses blanches épaules ont presque effleuré le sol. Quel geste charmant! Ne diriez-vous pas qu'avec cette main qui rase l'éblouissant cordon de la rampe, elle ramasse tous les désirs et tout l'enthousiasme de la salle ? Qui choisir ? La grâce aérienne et virginale de Marie Taglioni ? Ou la lascivité de Fanny Elsler quand elle se cambre hardiment sur ses reins et qu'elle jette en arrière ses bras enivrés et morts de volupté. Ni l'une ni l'autre, finalement. Car Théophile Gautier, pour qui le ballet est un rythme muet, une musique que l'on regarde, va faire finalement de Carlotta Grisi son égérie. Une autre héroïne du ballet blanc. C'est pour elle, Carlotta Grisi, que Théophile Gautier va élaborer, avec l'aide du dramaturge Vernois de Saint-Georges, le livret de Gisèle, dont la très jolie musique d'Adolphe Adam a permis au ballet de conserver toujours sa grande popularité.
Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la blanche Ophélia flotte comme un grand lys, flotte très lentement, couchée en ses longs voiles. On entend dans les bois lointains des halalis. Voici plus de 1000 ans que la triste Ophélie passe, fantôme blanc, sur le long fleuve noir. Voici plus de 1000 ans que sa douce folie murmure sa romance à la brise du soir. Le vent baise ses seins et déploie en corolle ses grands voiles bercés mollement par les eaux. Les saules frissonnants pleurent sur son épaule. Sur son grand front rêveur s'inclinent les roseaux. Les nénuphars froissés soupirent autour d'elle. Elle éveille parfois dans un aune qui dort quelques nids d'où s'échappe un petit frisson d'elle. Un chant mystérieux tombe des astres d'or. Ô pâle Ophélia, belle comme la neige, oui, tu mourus enfant par un fleuve emporté, c'est que les vents tombants des grands monts de Norvège t'avaient parlé tout bas de l'âpre liberté. C'est qu'un souffle tordant ta grande chevelure à ton esprit rêveur portait d'étranges bruits, que ton cœur écoutait le chant de la nature dans les plaintes de l'arbre et les soupirs des nuits. C'est que la voix des mers folles, immense râle, brisait ton sein d'enfant trop humain et trop doux. C'est qu'un matin d'avril, un beau cavalier pâle, un pauvre fou, s'assit muet à tes genoux. Ciel, amour, liberté, quel rêve, ô pauvre folle. Tu te fondais à lui comme une neige au feu. Tes grandes visions étranglaient ta parole. Et l'infini terrible effara ton œil bleu. Et le poète dit qu'au rayon des étoiles, tu viens chercher la nuit les fleurs que tu cueillis. Et qu'il a vu sur l'eau, couchée en ses longs voiles, la blanche Ophélia flotter comme un grand lys.
Gisèle ou les Vilis est créée le 28 juin 1841 par Carlotta Grisi. La chorégraphie, cette fois, est de Jules Perrault, d'après Heinrich Heine. Gisèle, une paysanne naïve, aime Albrecht. Mais en apprenant qu'il est fiancé à une princesse, Gisèle meurt. Alors la reine des Vilis, reine des esprits des jeunes filles mortes, décide qu'Albrecht doit suivre Gisèle dans la tombe. Lui est condamné à danser jusqu'à la mort par épuisement. Mais l'esprit de Gisèle, en dansant avec Albrecht, parviendra à le sauver. Qu'a donc fait Adolphe Adam dans Gisèle ? S'étonnera Camille Saint-Saëns. Non seulement il a fait la musique la plus symphonique qu'il a pu, mais il a donné dans ce qu'il est convenu d'appeler la musique savante. Il a fait danser les Vilis sur une fugue, une vraie fugue classique. Assez étonné, à vrai dire, de se trouver là. Il a fait aussi, dans Gisèle, de vrais airs de danse. Y avait-il donc, dans cet ennemi de la musique sérieuse et de la symphonie, Adolphe Adam, un symphoniste qui s'ignorait ? Le plus célèbre de ses ballets, Gisèle, est un pur chef-d'œuvre. L'instrumentation en est originale, colorée, merveilleuse. Gisèle, c'est elle.
L'Opéra de Paris, toute une histoire. Jérémy Rousseau, France Musique.
Voici le ballet blanc en 30 minutes de musique. Adam, Minkus, Meyerbeer, Glazounov, place à la danse.
Thank you. casque. Et ta chandelle fait casque.
Thank you.
Nous avons écouté des extraits de Gisèle d'Adam, de La Bayadère de Minkus, Les Patineurs de Meyerbeer, de Namouna de Lalo, de Sylvia de Delib, de Raymonda de Glazounov. Tous les détails sur francemusique.fr. C'était l'Opéra de Paris, toute une histoire. Émission préparée par Marion Guillemet, prise de son Jean-Michel Bernaud, mixage Guillaume Ledu, réalisation Claire Lagarde. Demain, sixième épisode, le scandale de Tannhäuser.
France Musique, c'est l'été.